J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose Parole aux auditeurs. L'Institut des musées nationaux dénonce ce qu'il qualifie de la spoliation du bâtiment abritant le musée national de la ville de Kananga au Kasaï occidental. Selon les directeurs de ces institutions, les bâtiments abritant ces musées seraient cédés par le gouvernement provincial à la Direction générale des impôts. Et des sources proches du gouvernement provincial, un autre bâtiment a été octroyé au musée vu également l'état de vétusté du bâtiment actuel. Cette situation relance le débat sur la gestion des patrimoines culturels en République démocratique du Congo. Quel état des lieux faites-vous de patrimoine culturel dans votre milieu? 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous en parlons dans ce studio avec le professeur Joseph Ibongo, qui est le directeur général de l'Institut des musées nationaux, mais accompagné du professeur Paul Bakwa, qui est le directeur général adjoint de l'Institut des musées nationaux et également archéologue de formation. Dieudonné Nyangasa assure la mise en ordre de cette émission réalisée et supervisée par Nicole Ngaka. Pierrot et la Meiji vous la présentent. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
À quoi représente aujourd'hui, comment dans l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui les différents patrimoines culturels dans votre milieu, que ce soit les musées si vous en avez et d'autres des sites archéologiques s'il y en a à travers le pays, à quel état des lieux vous faites de tout cela, ce qu'il faut faire pour améliorer, s'il faudrait porter des améliorations, c'est la problématique de l'échange d'en parole aux auditeurs. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le professeur Joseph Ibongo, vous êtes avec nous dans ce studio, bonjour.
Bonjour monsieur Dieudonné.
Merci. C'est Pierrot.
Ah, c'est Pierrot. Je m'en excuse.
Merci, voilà, c'est Pierrot. Et j'ai donné de l'autre côté à la technique. Nous avons aussi le professeur Paul Bakwa. Bonjour. C'est Pierrot.
Bonjour Pierrot.
Merci d'avoir accepté l'invitation des paroles aux auditeurs pour parler culture. C'est une question très importante. Est-ce qu'on parle assez de la culture, professeur Joseph Ibongo, dans notre pays? On parle assez vraiment de notre culture?
Mais écoutez, il y a beaucoup de... On parle de la culture, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de faiseurs de la culture, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs culturels, parce qu'il y a beaucoup d'artistes dans ce pays, parce que notre pays est très riche en culture. Donc, on parle de la culture. Mais de quelle manière faisons-nous pour parler de la culture et qu'est-ce que, in fine, on fait pour la culture? Je pense que ça, c'est la question la plus importante. Que fait-on pour la culture, pour son développement, pour sa promotion et pour sa conservation, notamment le patrimoine? Que fait-on? Que fait l'État pour la conservation du patrimoine culturel national? Ça, c'est la question la plus importante.
Et c'est exactement la question. Je me rappelle, on a eu, il y a plus de deux ans, une émission avec vous quand on célébrait les 50 années de notre indépendance autour du patrimoine culturel en ce qui concerne les musées. Vous êtes les directeurs généraux de l'Institut des musées nationaux. Y a-t-il encore des musées à travers le pays aujourd'hui?
Bien sûr, Pierrot, qu'il y a des musées dans ce pays. Et le musée dans ce pays date de l'époque coloniale. On a parlé des musées de la vie indigène ici à Léopoldville, qui se trouvait sur la rue Rubens. Et je ne sais pas quel est le nom actuellement, mais sinon c'est dans le bâtiment qu'abrite actuellement la NER, mais autrefois c'était le musée B. C'est là où se trouvaient les musées de la vie indigène. Il y a eu des musées comme à Lubumbashi, des musées du folklore de la vie indigène à Kananga, à Lulabourg notamment. Il y a eu des musées à Mbandaka, à Coquelatteville. Il y a eu des musées à l'époque coloniale, même aussi des musées ici, déjà là, au Collège Albert, il y a eu des musées. Il y a eu des musées publics, mais aussi des musées privés. Il se trouvait des musées organisés par des missionnaires, par des amateurs. Bref, il y a eu des musées à travers le pays, depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours. À ces jours, évidemment, il y a eu des musées qui ont survécu, qui ont bien sûr reçu le coup de pillage, de passage de l'époque et colonial à l'époque indépendante. Il y a ce passage a connu assez bien de vols, de pillages, de pertes d'objets, mais des musées ont survécu.
Mais quand on regarde aujourd'hui, on peut dire que on est à quelle étape à ces jours? On est dans la déclinaison ou bien on est en train de renaître par rapport au musée? Quelle est la tendance aujourd'hui? C'est le renouvellement ou on est dans cet état où les musées ont connu des problèmes, là, ont été pillés et après on a croisé les bras ou aujourd'hui on est en train de renaître?
Non, la tendance actuellement, c'est la renaissance des musées. Il y a une dynamique qui s'est faite actuellement depuis 2004. Mon directeur général adjoint pourra me compléter, mais c'est depuis 2004 que nous sommes dans une dynamique des musées dans notre pays, où l'on parle d'une politique muséale, du développement d'un réseau muséal à travers les provinces. On parle de la réhabilitation des musées, on parle de la construction des musées. On parle de la relance des activités scientifiques des musées, on parle de programmes éducatifs au musée, on parle même de la conservation, de la numérisation des archives photographiques, on parle de la numérisation des inventaires et des musées. Et donc, bref, on se trouve actuellement dans une étape de la redynamisation de la politique muséale dans notre pays.
Voilà, l'introduction de cette émission est partie, bien sûr, des Kananga avec l'inquiétude que vous avez autour du bâtiment abritant le musée national de Kananga. Nous avons eu des sources proches du gouvernement provincial qui nous a dit que le bâtiment est vétuste. Hein, il faudrait carrément déplacer le contenu de l'autre bâtiment vers un bâtiment qui a été déjà trouvé. Voilà, je crois peut-être qu'on aura plus d'éclairage dans les prochains jours autour de la gestion de ce patrimoine. Et professeur Paul Bakoua, vous avez quand même un témoignage par rapport à ces musées de Kananga.
Oui, effectivement, j'ai un témoignage, puisque dans les années 60, au début des années 60, j'étais au petit séminaire de Kabwe, et quand nous arrivions à Kananga, personnellement, j'ai pu visiter ces musées-là au moins 4 fois quand j'étais au petit séminaire. Et en dernière année au Collège Saint-Louis, j'ai pu aussi visiter ce musée-là plusieurs fois avec des amis, avec des collègues du Collège Saint-Louis. Donc c'est un musée, sans savoir que plus tard nous travaillerons dans le musée. Et donc ce musée-là existe depuis l'époque coloniale.
Et quand on vous parle du musée, par exemple, à Kananga ou Kasai, vous avez quel sentiment sur le plan culturel quand vous regardez ces musées? Je l'ai aussi visité plusieurs fois. Je sais, quand on parle d'un bâtiment vétuste, il faut déplacer carrément les contenus. Ça fait quand même un pincement au cœur. Mais cela représente quoi sur le plan du patrimoine culturel du Kasai?
Le musée, d'une façon générale, c'est le grenier et le centre de la créativité du peuple kasaïen. Et vous ne trouverez nulle part au monde des musées avec des objets africains, ou vous ne trouverez pas des objets cubains. Cuba, c'est un peuple artiste. Et dans ce musée-là, il y a ces œuvres d'art et qu'il faudra mettre à la disposition du public. Bien sûr, on n'a pas su drainer le public, et puisque le musée, quand nous étions là, le musée était occupé, tout le bâtiment était visitable, et on y a mis la direction de provinciale de la culture et art, ce qui a un peu réduit la visibilité même du musée. Mais le musée est très important pour un peuple. Et le peuple kasaïen, je crois que se retrouver dans ce musée, et la cohésion, l'unité même de tous ces peuples, de tous ces objets provenant des différentes communautés qui se trouvent au Kasaï, était un élément d'unité, un élément de cohésion et un élément de visibilité. Et comme le DG le disait, pendant cette période, les efforts auraient pu être développés et de construire enfin le musée, un grand musée de Kananga.
Et d'ailleurs, c'est notre souhait dans cette émission, c'est de voir aujourd'hui, par exemple, le gouvernement provincial mettre à la disposition de la division assez des moyens un grand bâtiment. On l'a vu avec la bibliothèque au Kasaï. Si on peut le faire aussi avec les musées, ça pourra permettre à ce que la culture soit conservée. Mais je vous ai présenté tout à l'heure aussi comme archéologue. Quand on parle de l'archéologie, c'est vrai, y a-t-il encore des sites archéologiques dans ces pays? Est-ce que ça existe?
Si, il y a beaucoup de sites archéologiques dans ce pays. Et si vous permettez, je dirais que lors de la pénétration européenne, il y a des Blancs qui se sont intéressés aux vestiges archéologiques, qui ont ramassé. Et d'ailleurs, quand je donne ce cours-là, je distingue quatre périodes, de 1988 à 1925, de 1925 à 1950, de 1950 à 73, et de 73 à nos jours. 1925, c'était une année remarquable sur le plan archéologique. Il y a Jean Colette qui a fouillé derrière le palais de la Nation pendant, d'une façon intermittente, pendant deux ans, de 1925 à 1927. Il a trouvé des objets qui lui ont servi pour sa thèse de doctorat en préhistoire du Congo. Donc il y a des sites archéologiques dans ces pays qui sont nombreux. Et d'ailleurs, lorsque l'Institut des musées nationaux avait été créé, et parmi ses attributions, il y avait cette attribution sur le plan archéologique. Donc il fallait fouiller les régions qui n'étaient pas encore prospectées sur le plan archéologique. Et ces régions sont nombreuses dans notre pays. Il n'y a que la province du Katanga, le Bas-Congo et dans une certaine mesure les trois Kivus qui ont été prospectés. Mais les autres provinces n'ont pas été prospectées. La province orientale, la province de Bandundu, le de Kasaï, ils ne sont pas prospectés sur le plan archéologique. Mais il y a des sites archéologiques.
Mais est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui au niveau du pouvoir public un programme vraiment, pas un programme peut-être sur papier, mais un programme vraiment dans le sens de la prospection de ces sites archéologiques? Parce que pour beaucoup d'auditeurs, je crois, il y en a qui seront surpris En entendant ça, il y en a peut-être qui sont surpris, qui disent, mais bon, on ne savait pas. Mais est-ce qu'il y a un programme cohérent qui existe aujourd'hui qui puisse permettre à ce qu'on ait des moyens pour effectivement faire cette prospection?
Malheureusement, je dirais que non, il n'y a pas une politique de prospection systématique et de fouilles systématiques dans ces pays. Et c'est pour cela que l'Institut des musées nationaux, sur ce plan archéologique, n'a pas pu atteindre les objectifs qui lui étaient assignés. Mais néanmoins, et quand les Blancs qui étaient là, ils ont pu prospecter, ils ont pu fouiller. Et il y a eu la publication de tous les résultats de ces recherches dans un des cahiers de l'histoire africaine dans les années 1977-1978.
Voilà, on va revenir à vous, le temps d'écouter aussi les auditeurs. Papi Kassema, vous êtes ici à Kinshasa, nous parlons des musées, du patrimoine culturel dans votre milieu, que ce soit ici à Kinshasa, à Kananga, Mbujimayi, à Goma, à Bukavu, Kisangani, Mbandaka, mais vous êtes aussi à Gemena, vous êtes à Manono, vous êtes à Kamina, vous êtes à Bandunduville, à Kikwite, Matadi, Kimpese. Vous pouvez également nous appeler au 081-890-6315, 081-890-6315, pour nous parler du patrimoine culturel dans votre milieu. Qu'est-ce que cela représente aujourd'hui? Ce qu'il faut faire pour le protéger?
Parole aux auditeurs.
Papi, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Monsieur Perrault et la Meiji, bonjour aux invités et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Papi, vous avez déjà eu le temps de faire un tour dans le musée ici à Kinshasa?
Bien sûr que oui, monsieur Jumali.
Et quand vous regardez ces musées, pensez-vous vraiment que c'est bien, c'est accessible? Et si jamais c'est bien, c'est accessible, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir pour permettre à ce que les musées soient vraiment ancrés dans notre quotidien, dans notre préoccupation?
Merci, monsieur Perrault. D'entrée de jeu, Je signalerai que d'aucuns ignorent le rôle, comme vous venez de le dire, que joue la culture en général et les musées en particulier dans le développement du pays. Car, dit-on, un peuple sans culture est un peuple sans avenir. Pour la promotion des musées dans notre pays, à mon avis, nous devons d'abord revoir notre politique culturelle en informant régulièrement la population sur son importance. Parce que je me rends compte que la population n'est pas du tout informée sur le rôle des musées dans notre pays. En outre, l'on doit prendre en compte les mesures rendant l'accès facile à ces musées-là. Parce que quand on arrive au musée, s'il y a trop d'exigences, vous savez, généralement, excusez-moi de le dire, nous les Congolais, nous aimons souvent la facilité. Et surtout que le coût de la vie s'élève de plus en plus, il faut revoir les coûts pour permettre aux gens de passer d'un moment à l'autre au musée national. En plus de cela, il faut que la jeunesse soit préparée bien avant, à partir de l'école primaire, pour l'amener à bien comprendre dès le bas âge l'importance de la culture dans un pays comme la RDC. Pour ce faire, étant donné que les invités qui sont avec vous au plateau ont la maîtrise de la situation, moi je trouve que c'est quitte à eux de pouvoir proposer au gouvernement un plan détaillé indiquant leur état de besoin. Parce que le gouvernement peut avoir beaucoup d'occupations, toutes des préoccupations. Il serait mieux que les invités puissent proposer au gouvernement les plans détaillés de leur état de besoin. Alors, pour terminer, à mon avis, je trouve aussi que avant de faire la promotion des droits culturels ou des musées nationaux, il sera aussi impérieux de pouvoir associer les chefs coutumiers. Vous savez, monsieur le journaliste, c'est le rôle que joue la coutume en ce qui concerne la culture. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Papy. Plusieurs propositions, la sensibilisation de la population, faciliter l'accès aux musées, associer les chefs coutumiers, hein, et puis que nos invités présentent au niveau du gouvernement un plan détaillé de leur état de besoin, selon les difficultés qu'ils rencontrent dans le domaine de la gestion des musées. Merci beaucoup. Joseph, vous êtes à Kindu, dans la province de Maniema. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capé.
Nous parlons de patrimoine culturel. Qu'est-ce qui se passe à Kindu aujourd'hui? Avez-vous des musées?
En tout cas, monsieur le journaliste, vraiment, nous sommes vraiment désolés, nous, la population de Kindu. Et tellement que notre pays, la RDC, nous a oubliés, c'est comme si nous sommes dans une forêt un peu vraiment laissée, une forêt équatoriale qui n'est pas cultivée. Parce que ici à Kindu, monsieur les journalistes, moi j'ai fait la biologie chimie à l'Institut du 7e Tchemo à Kalima, 100 km de la ville de Kindu. J'ai terminé le cycle sans avoir été vraiment allé visiter les musées. Nous n'avons aucun musée que l'élève peut s'en sortir encore de la pratique pour aller d'abord voir les musées. Si vous étudiez quelques squelettes, quelques statistiques, il faut se rendre au musée pour vérifier, pour voir comment se trouve cette leçon. En tout cas, nous sommes oubliés. Et vous avez terminé les études sans pour autant connaître quelque chose que vous avez étudié. On ne sait pas comment est-ce que le gouvernement préconise pour d'abord nous, la population de Kindu. Nous n'avons pas mis aucun musée, même là où la population peut se rendre, visiter, voir quelque chose, même une ferme, même un parc, nous n'avons aucun musée. C'est pour cette raison que je reviens à l'idée de mon prédécesseur. Je suis d'accord d'abord que non, le gouvernement préconise d'abord quelque chose pour que la population, aussi pour les élèves qui sont à l'humanité, soit un peu bien préparés, voir l'état des musées, soit quelque chose. Parce que je n'étais pas au sujet d'aujourd'hui, on m'a brisqué, parce que l'hier que j'ai eu appelé, compte tenu de l'émission d'hier, mais tellement que j'étais arrêté, on m'a appelé tout de suite, et c'est pourquoi je suis d'abord vraiment content de votre appel, et c'est merci. Pourquoi moi, compte tenu de mon argument, il faut que le gouvernement aussi sache que tous les élèves, les deux humanités, il faut
merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. Vous êtes désolé, vous vous sentez abandonné à Kindu, il n'y a pas de musée, il n'y a plus rien, vous savez où aller. Et quand tout ce que vous avez étudié à l'école sur les plans culturels, vous ne savez où aller pour voir et lier la théorie à la pratique. Et c'est un SOS lancé hein, envers les autorités qui s'occupent des musées, nous sommes avec eux dans ce studio. Merci beaucoup Joseph. Nous avons Kadima Mpoi qui est à Kananga, vous êtes écrivain, bonjour monsieur. Monsieur Kadima, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci de nous appeler des Kananga au Kassai Occidental. Il y a cette inquiétude hein, par rapport au musée national de Kananga. Vous qui êtes là, dites-nous aujourd'hui dans quel état se présentent ces bâtiments. Et avez-vous le temps de passer là? Vous êtes écrivain, Kadima Poilongesha. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter ces musées et cette guerre autour du bâtiment spolié, non spolié, non vétuste, tout ça? Et vous, en tant qu'intellectuel de la ville, qu'est-ce qui se passe au juste, monsieur Kadima?
Oui, merci beaucoup. C'est un milieu que je fréquente régulièrement. Et par rapport à ce qu'on veut faire, c'est vraiment une grande inquiétude. D'abord, ce musée-là, d'abord, ça se trouve vraiment dans un bâtiment. Bien sûr qu'on doit réfléchir, ça c'est vrai, on ne peut pas douter. Moi-même, je fréquente ces musées-là. Quand on regarde même les choses qui sont dans les musées-là, même quand on parle de les déplacer, vraiment, je suis très inquiet. Je vois dans quel état se trouvent vraiment les biens qui sont dans les musées, là. C'est avec beaucoup de précautions qu'il faut les déplacer. Et j'ai, moi-même, je suis en contact avec des amis qui travaillent au musée. J'ai posé moi-même des questions parce que j'ai fait beaucoup de recherches là-bas. Mm-hmm. Il n'y a aucun endroit qui est prévu pour mettre ces bâtiments-là parce qu'il n'y a que les gens de division des cultures qui sont déplacés derrière en catastrophe. Aujourd'hui, dire à Kananga qu'il faut déplacer ces musées, je crois que c'est une décision, je m'excuse le terme, irréfléchie parce qu'on veut supprimer tout simplement la mémoire et ce sera très dangereux même si on veut déplacer les biens du musée, c'est avec beaucoup de précautions parce qu'il y a des éléments, par exemple, qui sont en bois, qui sont en train de se détériorer. On ne sait pas les déplacer n'importe comment. Donc je pense que le gouvernement provincial fera mieux de revenir sur cette décision. Si le gouvernement veut vraiment aider les Gassa occidentales en nous donnant un véritable musée, qu'on construise un endroit et puis qu'on vienne déplacer les choses. Le faire tel qu'on veut le faire maintenant, nous allons perdre le patrimoine de notre province. Ce sera très malheureux pour nous les chercheurs. Ça sera vraiment nous empêcher vraiment de faire notre travail. Je crois que c'est vraiment malheureux d'envisager une telle action sans pouvoir vraiment envisager une solution de rechange.
Mais monsieur Kadiman, de toute façon, il doit avoir une discussion entre l'autorité provinciale, le gouvernement provincial et ceux qui gèrent les musées. Vous, les intellectuels, vous dites que les bâtiments méritent d'être réfectionnés, mais aujourd'hui, on n'a pas un bâtiment vraiment qui peut accueillir toutes ces œuvres qui sont dans ces musées. Mais à ces jours, on est où aujourd'hui? C'est quoi? C'est un bras de fer? C'est une discussion? Ou bien on a abandonné, et puis après tout, il y a quoi aujourd'hui autour de ces dossiers?
Oui, un bras de fer, c'est difficile de dire un bras de fer parce que les deux n'ont pas la même force. Le gouvernement provincial, par rapport aux gens qui travaillent au musée, ce sont des gens qui doivent répondre aux ordres. Mm-hmm. Et le gouvernement provincial veut s'imposer. La petite enquête que nous avons faite sur la ville, on veut mettre, si on n'a pas vendu ces bâtiments, mais on veut y mettre donc la direction générale des impôts. Donc ça n'a pas de sens. Et même si on veut sortir ces gens-là, le gouvernement provincial ne veut pas faire sortir les gens-là pour réfectionner afin qu'on y rentre. C'est parce qu'on veut désaffecter le musée pour y mettre soit un autre service, soit vendre ces bâtiments-là. C'est ce qui est malheureux. Et puis les gens qui sont là-bas, l'unique résistance qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils vous ont alerté, vous faites mal à l'émission là-dessus. Le gouvernement provincial, je vois, c'est les directeurs de province qui passent là-bas avec des menaces pour que les gens puissent quitter. Et ces gens-là, ce sont leurs chefs. Vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de, ils n'ont pas de bras de fer. Ils se demandent ce qu'ils peuvent faire parce que ils n'ont pas des choses à dire devant ces autorités.
Merci.
C'est malheureusement écrit.
Merci beaucoup, monsieur Kadiman. Nous
pour
pensons
le moment,
que
ce qu'on peut faire, voilà, c'est nous, de la société civile, nous pouvons, nous leur demandons, nous voulons les empêcher vraiment de ne pas faire ça.
Parce voilà, merci.
Affecter cet endroit-là, soit à un autre service ou le vendre carrément, ce n'est pas possible parce que vous savez, par exemple, que la plupart des maisons dans la ville se sont vendues.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kadiman. Nous pensons et nous souhaitons, c'est notre souhait, que le gouvernement provincial puisse trouver une solution. On pourra d'ailleurs tout à l'heure poser la question au directeur général de l'Institut des musées nationaux pour qu'il nous dise, même au niveau de Kinshasa, où en sommes-nous avec les démarches par rapport à la protection de tous ces patrimoines du musée national de Kananga. En attendant, on écoute rapidement Michel qui est à Matadi dans la province du Bas-Congo. Michel, bonjour. Michel, vous êtes avec nous, bonjour. On a des petits soucis de ligne avec Michel. On retourne à Kinshasa. Venant Kabasele, vous êtes dans la capitale, bonjour Venant.
Oui, bonjour Monsieur Pierre.
On vous écoute. Vous avez suivi l'inquiétude par rapport au musée de Kananga, mais aussi notre ami Papi de Kinshasa qui a parlé de l'accessibilité des musées ici dans la capitale. Alors pour vous, la protection de tous ces patrimoines culturels doit passer par quoi, Venant?
Oui, merci Monsieur Pierrot de la question. Je pense que la question du musée culturel, c'est une question vraiment très importante qui nous inquiète beaucoup plus nous qui sommes chercheurs. Ce que moi personnellement je peux donner comme témoignage, c'est que aujourd'hui les musées congolais est négligé par le gouvernement dans le sens que depuis les années 60, il y avait des patrimoines culturels reconnus, mais aujourd'hui nous trouvons que notre État ou nos dirigeants sont en train de céder ce patrimoine à d'autres fins, sans toute façon j'ai à la Renaissance d'autres, car cela n'éteint. Mais ce que moi je devais demander pour pouvoir en place, c'est de songer à la création de nouveaux patrimoines et aussi sensibiliser la population ou réveiller le public de l'importance de notre musée national. On ne peut pas perdre l'essence qu'on avait ou on avait auparavant à d'autres fins. Par exemple, la question, les problèmes d'éducation occidentale. On vous dit que le patrimoine est cédé à la direction générale des impôts. C'est comme si on est en train de négliger d'autres disciplines aux fins d'autres. Vous voyez, c'est vraiment une façon de négliger d'autres disciplines dans notre pays. Ce n'est pas vraiment une bonne gouvernance dans ce sens.
Merci, merci beaucoup Venant. Vous souhaitez que le gouvernement puisse se pencher vraiment sur la renaissance du patrimoine culturel et par exemple les musées en particulier. Hein. Nous allons encore vous rappeler notre numéro d'appel pour intervenir en direct 081 890 63 15. Nous allons tout à l'heure revenir dans ce studio pour faire le point avec nos invités. Nous parlons de la gestion de notre patrimoine culturel, les musées en particulier. C'est la partie de Kasaï Occidental dans la ville des Kananga où les acteurs culturels, les opérateurs culturels estiment qu'il y a spoliation du bâtiment qui abrite ces musées, mais pour les sources proches du gouvernement provincial, le bâtiment est vétuste, il faut carrément le réfectionner et permettre à la direction générale des impôts d'ériger un bâtiment à 4 étages pour ses travaux et que le musée national a déjà un autre bâtiment mis à sa disposition. On va voir tout cela tout en souhaitant que le patrimoine soit protégé. 081 890 63 15, c'est le numéro d'appel.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Professeur Joseph Ibongo, nous avez suivi nos auditeurs. Ils souhaitent vraiment qu'on voie cet engagement du pouvoir public dans la promotion du patrimoine culturel des musées aussi et en particulier. Mais d'abord, tout est parti de Kananga. Quelles sont les informations en votre possession aujourd'hui par rapport à ces musées nationaux de Kananga?
Écoutez, je dois d'abord remercier très sincèrement tous les intervenants de la RPI, mais aussi celui de Kinshasa sur cette question du patrimoine, de la fréquentation du musée, mais aussi le manque de musée à Kindu, cette désolation qu'on éprouve actuellement et autour du bâtiment abritant le musée de Kananga. À notre possession, nous avons reçu une correspondance du directeur du musée national de Kananga, faisant état justement de la situation actuellement qui prévaut dans ces musées, notamment et la tentative de la vente de ces bâtiments par les autorités provinciales, et deuxièmement le fait que l'on voudrait faire partir ce musée vers un autre endroit qui n'est pas préalablement préparé, et troisièmement c'est toutes ces menaces des agents de l'ANR, du directeur du urbain qui arrive sur place pour intimer l'ordre de la pour qu'il déguerpisse, etc. Nous avons à notre niveau également saisi l'autorité. Vous savez que l'Institut des musées nationaux du Congo relève du ministère de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts. Mm-hmm. Nous avons écrit, adressé nos lettres à l'autorité en réservant des copies et à toutes les personnes également qui ont reçu la lettre de Kananga. J'ai personnellement rencontré certaines personnalités originaires de la province du Kasaï Occidental, notamment l'honorable sénateur Emery Kalamba, à qui nous avons présenté notre inquiétude également de ces déplacements ou de cette vente éventuelle du bâtiment de Kananga. Nous attendons la réaction officielle. Mais, vous savez, les choses peuvent aller plus vite et plus rapidement que les lettres. C'est pour ça que nous avons voulu répondre respectueusement à votre invitation. Nous avons la même inquiétude. C'est un cri d'alarme que nous lançons. Je sais que à la tête des provinces se trouvent des élus qui doivent privilégier l'intérêt des populations. Je sais également qu'à la tête de nos provinces se trouvent des hommes cultivés qui savent ce que c'est que la culture, qui savent ce que c'est que le patrimoine. Et donc, ce n'est pas des leçons à faire à toutes ces autorités. Et lorsque l'on privilégie la direction générale des impôts en défaveur du patrimoine, je trouve que c'est paradoxal quand je regarde combien le Premier ministre Matata Mponyo a rendu la primature un bijou, un point attractif en y érigeant des monuments, des portraits d'ailleurs de ses prédécesseurs, et en montrant que les patrimoines est un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire. Et le musée national de Kananga est un lieu où l'on retrouve justement les génies créateurs de peuples du Kasaï et occidental. Je trouve paradoxal tout de même qu'une décision de l'autorité provinciale arrive à déplacer sans préparation aucune, sans même en avoir parlé aux autorités de musée, sans même quelconque dialogue. Je trouve que quand même c'est...
Bon, le souhait d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure dans cette émission, c'est qu'avec les correspondants, ceux qui nous ont appelés des Kananga, c'est qu'on arrive vraiment à pouvoir résoudre cette question, surtout protéger le patrimoine qui est dans ces bâtiments. Mais vous avez suivi tout à l'heure l'inquiétude de notre ami de Kindu. Alors, la balle revient dans votre camp parce que Papy a dit, c'est à vous de pouvoir élaborer un plan directeur, un état des besoins à présenter au niveau de l'autorité publique, au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, pour voir comment valoriser tout ça, les sites. On a évoqué le problème des sites archéologiques tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez un plan directeur du développement de ce domaine des musées de patrimoine culturel avec que vous avez par exemple présenté au gouvernement pour savoir que dans les prochains jours, dans telle province on pense faire ça, dans telle province on pense faire ça.
Merci pour la question. Vous savez que nous ne travaillons pas à vue. Depuis 2006 que nous sommes à la tête de cette institution, nous avons produit un programme scientifique et culturel depuis 2006 et qui prenait fin en 2012. Et là nous venons de sortir d'une table, d'un atelier que nous avons organisé à l'Institut français et avec notre ami Christophe Roussin, le directeur adjoint de l'Institut français, sur justement les axes prioritaires pour mettre en place justement un plan directeur, un plan stratégique de l'Institut des musées du Congo à partir de cette année jusqu'en 2018, etc. Et tout cela pour que cela soit présenté au gouvernement, comme on l'a fait aussi pour 2006. Malheureusement, on n'a pas pu trouver de fonds importants qui devaient nous permettre de d'exécuter notre plan stratégique. Et bien que nous avons eu à exécuter ici et là certains aspects qui étaient prévus dans notre plan d'action. Les quatre axes prioritaires que nous avons pour l'instant, c'est et la redynamisation justement de la politique muséale où nous avons prévu la réhabilitation et la construction des musées. Nous avons retenu, nous avons pris l'option, partant d'ailleurs des travaux de la conférence nationale, partant également des travaux de concertation nationale, un musée, pour chaque chef-lieu de province. Vous savez que dans le contexte de la décentralisation, nous allons bientôt avoir 26 provinces. Et donc, nous avons prévu de construire dans chaque chef-lieu de province un musée, là où ça n'existe pas. Et nous avons déjà commencé à réhabiliter les musées de Mbandaka. Et nous avons, depuis 3 ans, commencé à faire fonctionner des musées à Mbandaka dans un bâtiment ancien où se trouvaient les musées coloniaux. C'est dans ce bâtiment où nous avons mis les objets et nommé le personnel et envoyé le patrimoine à Mbandaka. Nous avons prévu également d'ouvrir les musées à Boma, dans un ancien bâtiment qui abritait le gouverneur de Léopoldville. C'est un bâtiment historique chargé d'histoire et le patrimoine qui va y être logé sera également le patrimoine culturel national. Et nous avons également le projet de construire, d'ouvrir le musée à Kikwit. Le personnel existe, le bâtiment vient de nous être donné qui va être réhabilité et d'ailleurs... Et à entendre les autorités provinciales de la province de Bandundu, ils vont construire 4 musées. Un à Bandundu, un autre à Kenge, un autre à Kikwit, un autre à Inongo. Donc ils sont déjà en avance. Alors je ne comprends pas que le Kasaï occidental, qui a déjà un musée à Kananga, veut faire partie, mettre le patrimoine sur la rue. au lieu de penser plutôt à réhabiliter le bâtiment.
Voilà. Et, mais professeur Paul Bakoua, est-ce qu'on peut dire que le manque d'engouement, parce que c'est l'impression qu'on a pas cet engouement envers ces patrimoines culturels, les musées, il y a les auditeurs qui sont revenus sur la collaboration avec les écoles pour voir comment déjà on peut inculquer ça dans la culture à partir des bas âges. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que le programme scolaire ont failli, on ne trouve pas, on ne parle pas assez des cultures dans le programme scolaire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, et puis, qu'on aille ou qu'on n'aille pas, les gens ne semblent pas s'intéresser tellement à ces domaines, professeur.
Oui, enfin, je pense que vous avez raison en soulevant cela, mais le fait est dû surtout à l'absence des musées dans notre pays. Mm-hmm. Vous savez que dans ce pays, le seul musée digne de nom avec l'architecture muséale, c'est celui de Lubumbashi. Mm-hmm. Et à Kananga, c'est un musée digne de nom, mais qui se trouvait dans un bâtiment. Mais depuis un certain temps, avec la présence de la division de culture et art, le musée avait perdu pratiquement sa visibilité, puisqu'il n'y avait même pas un écriteau sur le bâtiment qui indiquait le musée. Et ailleurs, comme à Kindu, dans d'autres provinces, il n'y a pas de musée. Et depuis que nous sommes devenus indépendants, même les musées coloniaux ont cessé d'exister. Et c'est en cela que j'abonde, dans le même sens que le DG, que notre effort à nous, après l'indépendance, à l'heure actuelle, était la création des musées et à tous les échelons de l'organisation administrative. Comme le DG l'a dit, un musée national dans chaque chef-lieu de province, mais il devait y avoir des musées aussi dans les districts, chef-lieu de district, des territoires, même des secteurs. Bon, Pierrot, quand vous imaginez que la France, qui entre quatre fois dans notre pays, a au moins 4000 musées, je l'ai toujours dit. Le Brésil, qui est comparable à nous, a au moins 2000 musées. La Belgique, qui entre 80 fois dans notre pays, a au moins 1000 musées. Donc le phénomène muséal, c'est un phénomène important. Mm-hmm. Et le musée, et c'est la mémoire d'un peuple. Et il faudra encourager la création des musées aux différents échelons, puisque c'est dans le musée que l'on donne l'esprit de conservation. Mm-hmm. Dans notre pays, nous avons un problème réel, c'est le problème de conservation. Mm-hmm. Et on se bat aujourd'hui, le gouvernement se débat pour la révolution de la modernité, pour mettre des infrastructures à notre portée. Mais sommes-nous capables de garder et de conserver ces infrastructures?
C'est la question. Voilà, c'est important. On va revenir à vous. Badi Banga, vous nous appelez de Kananga au Kasaï occidental. Bonjour.
Bonjour, monsieur l'animateur, les journalistes, bonjour.
On vous écoute, nous parlons du patrimoine culturel, du musée. Est-ce que aujourd'hui on parle du musée national de Kananga, mais est-ce que la population de Kananga connaît vraiment ces musées? Est-ce que les gens savent vraiment qu'un musée existe à Kananga?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, vous allez peut-être me faire rire, ou c'est moi qui vais vous faire rire. Je suis, je m'appelle Badi Banga, comme vous avez dit, Badi Banga Chifo Moïcoque, c'est comme ça que les gens me connaissent. Je suis le président de la cellule littéraire de la province du Kasaï occidental dans une structure dénommée Rencontre des opérateurs culturels, ROC, en sigle ASBEL. Donc, j'ai mis un point là-bas pour que vous compreniez une chose. J'ai aussi, je suis promoteur des écoles privées à Kana. Une fois, je demande à mes élèves, les élèves de mes écoles, les secondaires et primaires, s'ils connaissent où se trouve le musée de Kananga. Mes élèves, quelques-uns disent non. Certains enseignants disent la même chose, qu'ils ne connaissaient pas. Il y a des années où j'ai fait visiter à mes élèves des musées dans le cadre de la connaissance du patrimoine culturel du Kasaï occidental. Mon cher journaliste, je me rends au musée, je demande des renseignements pour mettre en contact le musée et mon école. On me dit qu'il n'y a pas moyen que vous veniez parce que nous sommes en train d'être déguerpis, mon ami. J'étais estomaqué et j'ai suivi cette émission depuis le début. Quand j'ai suivi la cartographie que vos invités ont fait, je crois que nous sommes que deux ou quatre en RDC qui avons des musées, donc je parle en termes des provinces, de Kasaï occidental. Et tous les échappatoires que l'on a mis dans votre bouche peut-être pour dire qu'on voudrait déloger les musées pour loger la DGI, patati patata, parce que peut-être on voudrait peut-être réhabiliter la maison. Et c'est déjà entendu. La plupart des maisons de l'État ont été spoliées. On se cache toujours derrière cette raison. Cette maison-là, je suis Kananga de naissance, je connais très bien la vie de Kananga. Cette maison est construite en matériaux très durables. S'il faut peut-être enlever une tôle, bon, mettre un peu de ciment, la peinture, ça va. Quand bien même on voudrait loger la DGI, mais je suis en face, je suis ici, entre deux grandes maisons des ministères, le ministère de la Jeunesse, façon occidentale, et le ministère de la Justice. Il y a un espace où l'on peut mettre 5 terrains de football. Cet espace est vide et couvert d'herbe. Et on peut y construire une maison pour la DGI.
Voilà, monsieur,
on
oui.
On peut y construire une maison pour...
Non, si on vous écoute, monsieur Badibanga, vous avez dit qu'on a mis les paroles sur dans votre bouche, c'est pas ça. C'est que nous disons, c'est que nous permettons que les deux, qu'on trouve une solution, n'est-ce pas? Vous avez besoin de protéger le patrimoine culturel. Si l'autorité publique découvre qu'il peut désaffecter un terrain pour autre chose, ça reste en débat au niveau de la province. Mais pour nous, que ce soit à Kananga, que ce soit en Mbujimayi, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kisangani ou partout, ce que nous voulons, c'est qu'ensemble, nous puissions voir comment protéger notre patrimoine culturel. Vous estimez pour vous qu'il y a assez d'espace dans la province qu'on peut donner à la DGI ou à quelqu'un d'autre pour ériger un bâtiment, mais du moins réhabiliter et garder les patrimoines du musée là où il se trouve, c'est ça le souci de tout le monde, même de nos invités. Merci beaucoup, Badibanga, de nous avoir appelé des Kananga au Kassai occidental. Nous retournons ici à Kinshasa. Stella Mandaïla, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, vous avez fait la numérisation du musée national, c'est ça?
Écoutez, merci d'abord de m'appeler. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me tient à cœur. Tout simplement parce que moi je représente une société qui est spécialisée dans tout ce qui est conservation du patrimoine culturel. Mmh. Et la société se nomme donc Memnon Archiving Service. C'est depuis 2006 que je suis ici en République démocratique du Congo. Je vais dire en fait je suis entre Bruxelles et Kinshasa. Nous avons même ouvert un bureau de représentation pour essayer d'aider le gouvernement congolais à mieux conserver le patrimoine culturel qui se trouve justement dans les musées, dans les ministères, etc. Mais malheureusement, je suivais un peu les autres intervenants, je dirais tout simplement qu'il y a un sérieux problème au niveau du gouvernement. Le gouvernement congolais n'a pas une politique de conservation du patrimoine culturel. Mmh. C'est là tous les problèmes. Nous avons essayé depuis 2008 avec le professeur Ibongo, qui est le directeur du musée national, qui se trouve au Mont Galiema. Je ne peux pas appeler ça un musée. Pour moi, c'est un espace qu'on a aménagé pour essayer de conserver ou de mieux préserver le peu d'objets, des œuvres d'art et d'autres objets sonores qui existent. C'est plutôt un hangar. Un hangar qu'on a aménagé pour essayer de conserver ces objets-là. Et donc, nous avons essayé, à l'époque du ministre Mukendi, de nous battre. On a même initié un projet pour voir si le gouvernement congolais ne pouvait pas mettre en place un musée en bonne et due forme. Il y avait un site où on appelle le site de Tembena Tembe. On a essayé de se battre pour que le gouvernement puisse mettre ça à la disposition du ministère de la Culture et des Arts pour qu'on puisse construire un musée là-bas. On a même trouvé, je peux dire, avec des moyens financiers, parce qu'en fait, c'est ça qui pose problème. Avec le programme du développement, il y avait moyen de dégager un financement pour que le gouvernement puisse construire ces musées. Malheureusement, comme les gouvernements congolais ne suivent jamais les projets, on a abandonné ces projets. Pour moi, je dirais tout simplement que tous ces problèmes qu'on a avec les conservations de patrimoine du Congo vient du fait que le gouvernement congolais n'a pas une politique mise en place pour justement essayer de préserver ces patrimoines. Et donc, c'est un cri de cœur que je lance vraiment au gouvernement congolais de prendre cela comme une priorité. Il n'y a pas que priorité sociale ou quoi que ce soit, il y a aussi des priorités culturelles. Mmh. Un musée peut contribuer d'une manière ou d'une autre à l'économie du pays. On voit ça dans les autres pays européens. Ils ont des musées. Il y a un monsieur qui a cité des musées au niveau des pays africains. Il a cité des musées au niveau... Moi, je viens de la Belgique. On a plus de 3000 musées en Belgique. Dans chaque province, vous avez au moins 20 musées. Pourquoi? Simplement parce que les gens s'intéressent dès le jeune âge.
Oui, madame Stella Mandaila, excusez-moi d'avoir massacré votre nom. Vous avez tout à l'heure parlé de professeur Joseph Ibongo. Nous sommes avec lui dans ce studio, avec qui vous avez initié le projet, mais il y a aussi le professeur Paul Bakwa qui tout à l'heure a évoqué la cartographie des musées à travers le pays. J'aimerais mieux d'ailleurs que professeur Ibongo puisse réagir rapidement, parce que vous avez évoqué le projet que vous avez mené ensemble. On est ensemble, vous gardez la ligne, professeur Joseph Ibongo. Vous avez suivi madame, elle est très inquiète parce qu'on n'a pas cette politique. Est-ce que c'est un problème de la volonté politique qui nous manque de pouvoir investir vraiment dans ce domaine, et un domaine qui peut aussi générer assez de recettes?
Mais je dois d'abord remercier Stella et la féliciter, effectivement. C'est Memnon est notre partenaire. Nous avons réalisé un très beau projet avec Memnon en numérisant un fond sonore qui est d'ailleurs parti dans leurs installations à Bruxelles et qui nous est revenu sous forme de d'un bon suivre dans un très bon disque qui conserve justement une bonne partie qui a été numérisée de notre fond sonore. Vous savez que nous avons une section au musée de musicologie et traditions orales. Mm-hmm. Et c'est là-dedans justement où nous avons près de 1000 heures d'enregistrement de musique traditionnelle, mais qui se trouvent sur des bandes magnétiques. Vous savez que les bandes magnétiques ont peu de vie, ils ont une courte durée. Mais avec Memnon, nous avons numérisé une bonne partie de ces fonds sonores. Et je dois effectivement la remercier. Et il y a un problème réel. Mais tout c'est simple quand vous regardez la décision prise par l'autorité. J'y reviens sur l'autorité provinciale. En mettant dans le bâtiment du musée de Kananga la DGI, la Direction Générale des Impôts, c'est de l'argent frais. On s'intéresse plus à l'argent frais. On pense que la culture, effectivement, n'apporte pas de l'argent, mm-hmm. n'apporte rien sur l'assiette, sur le trésor public. Mais c'est tout le contraire. Lorsque la culture est bien organisée, lorsque la culture, on lui accorde justement son statut et on a toute une politique culturelle dans un pays, eh bien, la culture apporterait beaucoup à l'économie. Mm-hmm. On parle actuellement de culture et développement. Tous les aspects, toute la culture, si elle est bien organisée, eh bien, que si elle est bien rentabilisée, elle apporterait beaucoup de choses à voilà. l'économie nationale.
Oui, Stella Mandaila, vous avez suivi le professeur. Juste un mot pour qu'on se sépare. Alors, pour vous, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut espérer dans la protection de ces patrimoines? Votre souhait dans l'avenir, en quelques mots, tout simplement.
Moi, je dirais tout simplement, ben merci pour les professeurs Ibongo qui me suivent, je ne savais pas qu'il était là, mais je dirais tout simplement qu'il faut qu'on continue, donc les professeurs Ibongo, les directeurs du musée, les directeurs des archives nationales, les directeurs de la bibliothèque nationale, qu'on est ces trois-là, on doit nécessairement se battre, continuer le combat mm-hmm. auprès des autorités du pays pour qu'on puisse d'abord prendre en compte ces projets de numérisation des archives, parce que ça aussi ça pose un problème au niveau du pays. Mm-hmm. On n'a pas de techniques de numérisation proprement dit, et donc il faut absolument qu'on continue à se battre auprès du gouvernement pour qu'ils prennent ça en compte, et aussi de plaider vraiment, de faire un lobbying auprès du gouvernement pour qu'on puisse construire enfin ces musées de Kinshasa qui n'existent pas encore. Au Katanga, j'ai entendu qu'il y avait un musée, à Lubumbashi il y en a un, mais au niveau de Kinshasa comme tel, il n'y a pas de musée. Et donc, pour moi, je dirais tout simplement qu'on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer à se battre mm-hmm. pour qu'on puisse sensibiliser les gouvernements à prendre en compte cet aspect des choses et de pouvoir construire donc ces musées de Kinshasa et de continuer le travail de numérisation.
Merci beaucoup, madame, pour toutes ces précisions. Le débat, il est très intéressant. C'est pour cela que vous avez dit, ensemble avec le professeur Joseph Ibongo, le professeur Paul Bakwa, il ne reste qu'à vous battre pour pouvoir arracher ces musées de Kinshasa et aussi les musées à travers le pays. Mais professeur Paul Bakwa, avant d'écouter Joseph qui est ici à Kinshasa, alors déjà on a des problèmes sérieux en ce qui concerne la gestion des musées, les musées qui n'existent pas. Mais dans l'archéologie, je crois que ça va être encore plus grave, même s'il faudrait faire les débats à ce niveau-là. Mais le problème est plus grave que même dans l'histoire que confectionnée aujourd'hui pour enseigner, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, que ce soit même au niveau des universités. Je crois que cette facette de l'archéologie congolaise, elle n'apparaît pas, à moins peut-être que j'ai oublié ou je me suis trompé, mais je ne crois pas que cela puisse apparaître vraiment, ne fût-ce que dans le programme de cours d'histoire que nous avons dans notre pays.
Non, vous avez amplement raison, Pierrot, puisque dans ce pays, il n'y a que deux archéologues, deux formateurs des archéologues. Je dirais qu'il n'y a même pas, à l'heure actuelle, des archéologues amateurs, en quelque sorte. Et les deux qui sont là, nous sommes déjà avancés en âge, et je me demande si nous transitons, nous changeons de monde, nous allons dans le monde invisible, et on devra recommencer à zéro pour que ceux qui s'intéressent à l'archéologie puissent aller ailleurs pour être formés. Donc dans le pays, il n'y a aucune filière de formation des archéologues. Et vous avez dans les ISP, partout là, il y a dans le département d'histoire, il y a le cours d'archéologie. Je me demande qui donne ce cours. Et il n'y a qu'à Lubumbashi, ici à l'Université de Kinshasa, où le professeur Mouya et moi-même, nous donnons le cours d'archéologie. Donc le problème est réel, et il faudrait qu'il y ait d'abord la formation des archéologues nationaux, et qui prendrait en charge la prospection qui était prévue au programme de l'Institut des musées nationaux, et puis l'étude de l'âge du fer, et qui est aussi très très intéressante. Et c'est à ce moment-là qu'on penserait à écrire le manuel de l'école primaire et de l'école secondaire. Mais le problème est réellement posé, et je me demande comment on trouvera la solution.
Mais il faut en définitive qu'on trouve une solution, parce que cela va de notre histoire, parce que 54 ans après, si on n'en parle pas aujourd'hui, dans 10 ans peut-être personne n'en parlera, et quand dans 20 ans, c'est que tout sera effacé, et puis ceux qui viendront après nous, ils oublieront même que cela a existé. Voilà, merci, on va revenir à vous. Il y a Joseph qui est ici à Kinshasa. Bonjour Joseph. Vous avez suivi les uns et les autres autour de la protection de notre patrimoine culturel. Quel est votre point de vue?
Oui, mon point de vue, je crois que beaucoup ont déjà parlé de la cause, le problème qui existe, c'est la négligence. Moi, je voulais plutôt parler de responsabilité. Avant de condamner d'abord le gouvernement, moi, je crois que la responsabilité devrait d'abord venir au niveau des partis politiques, parce que le gouvernement n'est que le reflet de la manière dont nos partis politiques fonctionnent. Bien, je vous donne un exemple. Dernièrement, je ne sais pas si il y a eu la concertation nationale, je ne sais pas s'il y a eu parmi les résolutions, on a dit aborder ce problème au niveau des concertations nationales. Je crois que les politiciens sont beaucoup plus préoccupés à autre chose. C'est-à-dire, quand ce monsieur-là sera au gouvernement, au ministère de Culture et Arts, il ne fera rien parce qu'il n'y a aucun projet. Le projet devrait commencer plutôt au niveau de la société civile, les partis politiques, les universités. Moi, je pose même la question si nous avons une faculté à l'université de Kinshasa ici qui s'occupe de ce genre de problèmes. Alors, si vous revenez sur les musées qui ont été construits, vous verrez que la plupart, si pas la totalité, étaient construites à l'époque coloniale. Donc, ça a été conçu par les colonisateurs. Et quand il est parti, il n'a pas su former les gens qui pouvaient prendre la relève. J'ai suivi Gisèle Mandaïla qui parle en Belgique, il y en a autant. Mais c'est ça leur culture. Nous on n'a pas, nous, c'est la culture d'oralité. Chez nous, on n'écrit pas, on ne protège rien du tout. Donc chez nous, les gens préfèrent parler, mais pour ne rien faire. Je crois que le véritable problème, la solution, ce sont les partis politiques. Je ne pense pas qu'il y ait un seul parti politique qui sensibilise la population en matière de lycée. On n'a jamais vu un chef de parti politique aller visiter le musée. Ça n'existe pas. Le ministre de la Culture et Arts. Je vois que souvent, ce sont des ministres qui restent, qui s'occupent plus des musiciens, apparemment, des théâtres. Ils croient que c'est ça. Le ministère tourne autour de voyages, de la musique et les théâtres. Et pourtant, le ministre devrait avoir des conseillers. Déjà, à partir de son parti politique, on devait parler de ça. Alors, quand on envoie quelqu'un au gouvernement, on propose quelqu'un au ministère des Cultures et Arts, qui n'a aucun projet. Parce que lui, quand il arrive là-bas, il n'a aucun projet. Il arrive, il attend qu'on lui donne des instructions. Et vous verrez souvent, quand ils disent toujours « sur instruction de ». Je ne veux pas citer le nom, mais vous savez comment ils ont toute une formule là-dessus. Hein? Ils disent toujours « sur instruction de ». Voilà, maintenant nous exécutons. Vérifiez dans le budget du Congo. Il n'y a rien du tout qui est prévu pour l'entretien.
beaucoup de billets parlent plus de la construction ou de la reconstruction, mais très peu d'argent est affecté dans les domaines d'entretien. Mm-hmm. Ce n'est pas seulement les musées. Regardez tous les bâtiments, les stades de football, ce sont des musées qu'on pouvait visiter. Et aller voir dans quel état ça se trouve. Il n'y a aucun budget prévu pour ça. Donc mm-hmm. je pense que c'est un problème de culture au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile, au niveau de l'élite intellectuelle, entre autres les universités qui devraient faire ce genre de sensibilisation. Mm-hmm. Malheureusement, vous verrez Merci. Que chaque fois qu'on vous donne des exemples, on parle plus de l'Europe, de la Belgique, mais ces gens là-bas n'ont pas la culture congolaise.
Mm-hmm. Or, merci beaucoup Joseph.
Cette culture-là, c'est que la culture des musées et autres, c'est beaucoup plus les colonisateurs qui nous ont amené ça, mais nous autres, nous étions plus dans l'oralité. On ne peut pas garder ça, ces symboles-là ne nous disent absolument rien.
Merci beaucoup Joseph de nous avoir appelé de Kinshasa. Vous avez évoqué les stades. Une fois, on se rappelle quand la fille de Mohamed Ali est venue ici à Kinshasa visiter les stades de Tata Raphaël, où il y a eu ces combats du siècle. Ces temps-là, les stades ressemblaient plus à un champ de patates douces, comme disait un entraîneur. Aujourd'hui, quand vous allez à Loulabourg, le bâtiment qui a abrité les travaux de la première constitution, dite constitution de Loulabourg, ces bâtiments n'existent presque pas. C'est ça le grand problème quand on ne sait pas protéger son patrimoine. Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa, vous gardez la ligne parce qu'on va tout à l'heure suivre le flash information des Radio Capi. On va revenir pour la deuxième partie, la conclusion de cette émission. Je rappelle que nous penchons sur la protection du patrimoine culturel de la RDC, les musées, les sites archéologiques. Qu'est-ce qui se passe dans votre milieu? Et nous avons deux invités dans ce studio, le professeur Joseph Ibongo, professeur Paul Bakwa, qui sont de l'Institut de musées nationaux. 081 890 6315, c'est le numéro d'appel si vous avez besoin d'intervenir en direct pour cette deuxième partie des paroles aux auditeurs.